Alors nous accueillons ce matin pour nous laisser enseigner Alex et Maud Loriot-Prévost qui viennent du sud de la France. Je les ai rencontrés au mois de février dernier où ils nous ont enseigné avec les jeunes sur amour, sexualité, mariage pendant tout un week-end sur à Solesmes. De par leur mission qui leur a été confiée, ils sont passés de manière personnelle et je les laisserai aussi se présenter. Ils ont beaucoup fréquenté Jeunesse Lumière avec le Père Daniel Ange que nous aurons la joie d'accueillir demain. Et puis tout un ministère, un engagement particulier dans leur église diocésaine, au service de la nouvelle évangélisation et au service pour la famille. Bienvenue.
Merci pour cet accueil, merci pour la joie de participer à ce chapitre des familles que nous découvrons. Nous avons eu beaucoup de joie déjà hier soir à vivre ce temps, cette très belle veillée ensemble. Et nous voulons vraiment nous inscrire dans cette continuité de ce qui a été donné, où vraiment les frères, tous ceux qui portent ce chapitre, ont senti et perçu de la part du Seigneur que nous avons à recevoir pour nous, pour nos vies personnelles, pour tous ceux qui sont présents ici, l'œuvre du Christ, l'œuvre de l'Esprit. Mais nous ne sommes pas simplement là en notre nom, nous sommes là aussi au nom de beaucoup, notamment de nos familles, de nos amis, de ceux que nous portons dans notre cœur. Et comme il est dit au niveau du titre de ce chapitre, aller dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il nous faut goûter, et c'est le thème de ce matin, combien la puissance du Christ ressuscité vient rejoindre nos couples, nos familles, notre ministère de parents, de grands-parents, d'enfants, parce que nous avons également un ministère auprès de nos parents et de nos grands-parents. Et tout cela, nous avons à goûter combien est puissant, efficace, agissant le Christ ressuscité au cœur du mariage, au cœur de la famille. Et nous désirons vraiment rejoindre chacun de vous, et particulièrement ceux qui sont éprouvés, à un titre ou à un autre, sur la question de la vie conjugale, de la vie de mariage, de la vie de famille. Nous pensons à ceux qui sont éprouvés dans leur vie conjugale, à ceux qui sont séparés, ceux qui ne sont pas séparés, mais ceux qui vivent douloureusement des situations délicates, à ceux qui sont blessés par rapport à leurs enfants, leurs petits-enfants, par rapport à ceux qui sont blessés au niveau de leurs parents. Le Christ vient nous rejoindre, et ce que nous allons essayer de regarder ensemble. Et souvent, à des moments, parfois, dans l'Église, parfois, on a un peu des discours un peu désincarnés par rapport au couple ou à la famille. Mais la situation aujourd'hui, vous le savez bien, chacun de nous, la famille est profondément, et le couple est profondément éprouvé. Donc, nous allons essayer vraiment ensemble d'aller vraiment ausculter ce que le pape François parle de l'évangile de la famille. Essayer vraiment au cœur de l'œuvre du Christ pour le couple, pour la famille. Parce que l'enjeu est trop important. Les trois derniers papes ont souligné combien le couple et la famille sont au cœur de l'enjeu de la nouvelle évangélisation. Et donc, il va nous falloir regarder ensemble comment le Christ agit, quel est l'épicentre de cet évangile. Et d'abord, de bien saisir l'urgence d'accueillir le cœur de cet évangile. Juste qu'on puisse saisir le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui et qui nous rejoint chacun, catho ou pas catho, croyant ou incroyant. Les enquêtes d'opinion les plus sérieuses illustre que quand on demande aux gens quelle est votre attente de vie, qu'est-ce qui est plus important pour vous dans votre vie, 79% des adultes, 86% des moins de 35 ans disent ce que j'attends, c'est aimer un homme ou une femme, avoir des enfants, être fidèle toute ma vie, accueillir, éduquer ses enfants, et puis après, accueillir aussi les enfants de mes enfants. Ça veut dire que l'aspiration la plus profonde des gens, c'est ce que l'Église porte depuis 2000 ans. C'est ce qui aujourd'hui est quasiment la seule à défendre aujourd'hui. Un homme, une femme, pour la vie. Pour la vie dans leur amour, mais pour la vie aussi dans l'éducation et l'accueil des enfants. Daniel, j'y reviendrai sans doute demain par rapport à tout ce qui se passe par rapport au gender. Mais donc c'est... Ça rejoint, alors que très souvent la grande majorité du discours de la société dit l'Église et la famille ou le couple, etc., c'est complètement ringard, dépassé, etc., etc. Pas du tout. Ça rejoint l'aspiration profonde des gens. Est-ce que vous connaissez un couple qui s'est séparé ou a divorcé, le cœur léger? Non, c'est chaque fois un drame. Qu'on soit marié depuis 3 mois, ou 30 ans, ou 40 ans. C'est toujours un drame. C'est pas qu'un drame pour les cathos. Donc malgré tout le discours qu'il peut y avoir culturel, cette situation, c'est l'aspiration profonde des gens. Et quand le couple vient se briser, c'est dramatique. Pour le couple, mais aussi pour les enfants. Et pourquoi ce qui est le cœur de ce, les gens aujourd'hui se mettent en couple, se mettent en famille, mais librement. Bon, que nos grands-parents, nos aïeux, etc., aient été déterminés par des questions sociales, etc., mais aujourd'hui, il n'y a pas plus libre que nous pour pouvoir choisir son époux, son épouse, etc. Mais pourquoi, pour tellement de gens, c'est si éprouvant, c'est si difficile d'aimer? Et donc effectivement, vous connaissez, c'est un divorce pour deux mariages. La projection des sociologues disent un couple qui se met sérieusement ensemble aujourd'hui pour construire vraiment une famille sérieuse. Eh bien, 7 à 9 couples sur 10 ne finiront pas leur vie ensemble. Pourquoi? Pourquoi c'est si difficile? Et donc, c'est trop douloureux. C'est trop douloureux. Nous devons donc aller au cœur de l'évangile de la famille. Jésus, est-ce que tu peux quelque chose à cette situation? Nous devons donc ausculter les choses. Et pour cela, nous allons essayer de reprendre un peu l'essentiel. Vous savez, sans doute, enfin certains d'entre vous peut-être ne le savent pas, le pape Jean-Paul II a fait une catéchèse pendant 4 ans, de tous les papes depuis le début de l'Église, de 220 papes, je crois. La plus grande catéchèse qui a été faite par un pape, c'est Jean-Paul II. C'est la plus grande catéchèse qui a été faite, c'est sur la question de la famille. Et l'épicentre de sa catéchèse, de cet évangile de la famille, c'est le chapitre 19 de Matthieu, avec la controverse de Jésus avec les pharisiens sur la question du divorce. Et Jésus dit, mais vraiment pour comprendre le mariage, il faut revenir à l'essence du mariage tel que Dieu l'a dessiné. Et donc pour comprendre ce que Dieu veut pour nous dans la famille, et pour comprendre également l'épreuve dans la famille et dans le couple, il faut revenir à cette Genèse.
Alors à l'origine, qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous? Vous savez tous, normalement, c'est quelque chose qu'on apprend assez vite dans l'Église, que tout être humain est créé à l'image de Dieu. Tout être humain est image de Dieu. Mais ce qu'on dit moins, c'est la deuxième phrase qui suit juste après. Homme et femme, il les créa. À l'image de Dieu, il les créa. Autrement dit, à chaque fois que masculin et féminin sont unis dans l'amour, il y a visage de Dieu. À À chaque fois qu'un homme et une femme s'aiment, ils sont au visage de Dieu. Donc, nous avons pour mission, nos couples, de révéler le visage de l'amour au monde. C'est pour ça qu'il y a un enjeu tellement grand à s'aimer, entre masculin et féminin, entre homme et femme. La vocation que Dieu nous a donnée est celle de la Trinité, de la communion trinitaire. Et qu'est-ce que c'est la communion trinitaire? Je ne sais pas si on peut l'exprimer avec des mots. Ça doit être un amour atomique, nucléaire. Je ne sais pas comment on peut le dire. Donc ça veut dire que tout être humain porte en lui, parce que c'est comme ça que Dieu l'a conçu à la Genèse, il porte en lui ce désir d'un amour tellement intense qu'il est à l'image de l'amour trinitaire. Voilà pourquoi tout homme, toute femme, quelle que soit sa culture, quelle que soit son histoire, porte en lui ce désir d'un amour intense, d'un amour qui donne un bonheur, une jubilation, et une jubilation pas que d'un instant, mais nous verrons ça tout à l'heure. En Genèse 2, quand Dieu a séparé Adam et Ève, il a utilisé un terme très beau, qui est seulement trois fois dans la Bible, qui est le mot « côte ». Bon, on le traduit comme ça en français, ça fait un peu « côtelette d'agneau », mais c'est pas le cas. C'est « côte » dans le sens du côté, dans le sens de la séparation, de la côte qui sépare la terre et la mer, par exemple. Et quand il a séparé l'homme et la femme, eh bien, ce mot « côte » est utilisé aussi dans l'Ancien Testament, quand on parle de l'Ancienne Alliance, l'Arche d'Alliance, il y a les deux côtés du tabernacle. Lorsqu'ils sont unis, ils contiennent la présence de Dieu. Donc à chaque fois, Dieu crée en séparant pour unir dans l'amour. Et la troisième fois, on retrouve ce terme, ça va être la côte du Christ transpercée sur la croix. D'où va jaillir la nouvelle Ève, l'Église. Donc vous voyez qu'à chaque fois, ce mot est utilisé pour signifier à quel point le don d'amour est intense et que tout homme est appelé à un dessein nuptial, un dessein d'amour incroyable, d'être épousé. Nous sommes tous appelés à être épousés. Et de là va jaillir le sens de la sexualité, qui est le don des corps, qui vient signifier le don des âmes. Et c'est pour ça que Jean-Paul II a appelé ce langage des corps comme la langue de la liturgie propre des époux, c'est-à-dire le lieu même où ils vont célébrer l'amour, et ils vont quelque part réactualiser à chaque fois le don qu'ils se sont fait l'un à l'autre et manifester la présence de Dieu. C'est un lieu extraordinaire, ce lieu où l'homme et la femme se donnent, et c'est pour ça qu'il y a un tel enjeu. D'ailleurs, vous savez que l'Église ne bénit dans une maison que des pièces, un seul meuble, le lit conjugal. Car c'est l'autel du couple, c'est là où il se donne. Et c'est là d'où va jaillir la vie. Donc ce dessein extraordinaire que nous portons tous en nous, eh bien évidemment il y a eu un petit problème sur la ligne, parce que normalement nous devrions être dans l'exultation tous les matins à la vue de ce cher et tendre amour que le Seigneur m'a confié. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais en tout cas, je ne suis pas tous les matins dans l'exultation. C'est qu'il y a eu une petite erreur sur la ligne. Il y a eu la catastrophe de Genèse 3. La catastrophe de Genèse 3 nous a tous marqués. Cette fracture du péché, cette rupture d'amour avec Dieu qui nous a coupé de la source, qui nous a coupé de tout ce qui était notre fondement, si je puis dire. Eh bien, ça a fait quoi? Ça a fait la grande catastrophe que nous connaissons tous. Mais je vais vous la résumer rapidement. Maintenant, nous portons tous trois blessures existentielles terribles qui ont touché toutes nos relations. La première blessure, je ne m'aime pas. Je ne sais pas très bien qui je suis. Mon corps est-il moi-même ou est-il qu'une enveloppe? Toutes ces questions-là qui font maintenant le succès de toutes, je dirais, les démarches de connaissance de soi, etc. Deuxième blessure, qui évidemment va nous toucher beaucoup dans la vie conjugale et la vie fraternelle. J'ai du mal à aimer mon conjoint. J'essaye de l'aimer, mais malheureusement, je suis tellement à droite que Au lieu de prendre ça comme un compliment, ça devient une agression et il faut des heures pour régler le problème. Et puis, je ne me sens pas aimée. Alors, les langages de l'amour de Chapman, tout ça, vous connaissez, mais bien avant Chapman, la Bible avait déjà dit que nous étions blessés par cette blessure. Donc, je ne me sens pas aimée. Le bien que je voudrais faire, je n'arrive pas à le faire, dit saint Paul. Et le mal que je ne voudrais pas faire, je le commets. Et l'amour de l'autre, quelque part, ne me rejoint pas. Troisième blessure, la plus grave. Je suis blessée, coupée dans ma relation à Dieu. Et au lieu de me jeter dans les bras de mon Père qui m'aime et qui n'attend qu'une chose, c'est de me consoler, de m'aimer, de me cajoler, je vais m'imaginer toutes sortes de choses sur lui et je vais rompre ma relation avec lui. Je vais avoir peur de Dieu sous toute forme que cela puisse être, ou je m'invente des dieux qui ne sont pas Dieu, mon Père. Voilà pourquoi nous avons en nous deux natures. Comme disent les pères de l'Église, la nature bénie qui demeure en chacun d'entre nous et qui porte cette aspiration, qui demeure, qui jamais ne s'efface. Et la nature blessée qui a comme voilé cette identité profonde que nous avons. Et donc nous rentrons dans ce lieu du combat dont nous sommes tous porteurs entre ces deux natures. Au moins la grâce, quand on parle de ça à des couples, c'est que je suis sûre que vous voyez tout de suite à quoi je fais allusion. Je suis certaine parce que dans tout couple, nous vivons à la fois ce désir d'intensité d'amour et à la fois cette immense déception que ce soit tellement difficile et qu'il suffise d'une paire de chaussures mal placées ou d'un placard pas fermé pour que ça nous bouleverse et que ça fasse un tsunami dans notre amour. Eh bien voilà, nous sommes devant une grande catastrophe. Maintenant, Seigneur, que peux-tu faire ?
Nous constatons cette difficulté, comme Jésus l'évoquait, en raison de la dureté de cœur. Moïse a autorisé le divorce, mais au début, il n'en était pas ainsi, dit Jésus. Et il rapporte donc la genèse et les origines, le dessein éternel de Dieu pour le couple. Et c'est très intéressant dans la discussion de l'évangile de Matthieu au niveau 19, au chapitre 19, les mauvais pharisiens, les méchants là, ils disparaissent de la circulation. Il reste que les gentils apôtres. Et très intéressant, les apôtres disent à Jésus, si jamais c'est ceux-là à se marier, il vaut mieux pas se marier. Il n'y a pas intérêt à se marier. Dans un langage moderne, Jésus, ton plan mariage, il est complètement naze. Il est irréaliste. Ce sont les apôtres, les colonnes de l'Église, qui le disent à Jésus. C'est pas simplement des jeunes d'aujourd'hui, 21e siècle, qui disent, on est la situation, etc. etc. Non, c'était il y a 2000 ans. Les apôtres et Jésus n'est pas en train de leur rassurer, mais disait, mais si les petits gars, vous allez y arriver, tout et tout, allez, courage. Les apôtres ont cette lucidité de reconnaître, c'est même pas la peine d'essayer de se marier. C'est mort ton plan mariage. C'est irréaliste. Et Jésus les rassure même pas. C'est quand même assez incroyable. Il dit, oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est pas réalisable. C'est bien, comme bonne nouvelle, ça commence bien. Hein. Sauf si jamais ça vous est donné. Sauf si jamais cela vous est donné. Ça veut dire que réaliser le dessein de Dieu dans notre couple et dans notre famille, ça ne dépend pas que de nous. Ça dépend d'un don qui ne vient pas simplement de nous. Ce don médite longuement, il a mis 4 ans, Jean-Paul II, à le méditer. C'est le don du Christ. C'est le don du salut. C'est le don du salut. Et c'est ça qui est le cœur, c'est ce qui est le cœur du sacrement de mariage. Trop souvent, on a eu dans l'Église des enseignements ou des méditations sur le sacrement de mariage, un peu à l'eau de rose. Vous aimez, c'est bien, Jésus vous bénit, allez hop, circulez, allez hop, c'est bon. Trois soirées de préparation au mariage, roulez jeunesse. Et effectivement, ça glisse comme sur les plumes d'un canard. Parce que Jésus ne vient pas simplement bénir un mariage. il vient le sauver. Parce qu'on est des bras cassés. Parce qu'on a ces trois blessures dont on ne guérit pas. Si le Christ ne vient pas nous sauver. Nos ancêtres dans la foi, tout le peuple hébreu, nos frères aînés dans la foi, les juifs, ont mis des générations et des générations avec les prophètes, etc., etc., d'essayer de réaliser le dessein de la Genèse. Ils n'y sont pas arrivés. Et Dieu a bien constaté cela. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils, pour nous sauver. Alors on le sait, que le baptême vient sauver la personne. Mais on ne sait pas que Jésus vient sauver aussi le couple. C'est pour ça que Jean-Paul II a cette analogie de dire que le mariage est au couple, ce que le baptême est à la personne. Jésus vient sauver nos couples, vient agir dans nos couples, vient guérir nos couples. C'est pour cela que on est à l'épicentre du cœur de la foi par rapport au couple et à la famille. Jésus vient nous sauver. Jésus vient nous guérir. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. Tellement on a d'exemples de couples non-croyants qui aspirent très légitimement. Leur but de leur vie, c'est de réussir leur couple, de réussir leur famille. Mais Jésus, ils n'ont rien à faire. Pour eux, c'est ringard. Mais quand ils ont découvert l'évangile du Christ, l'évangile de la famille, a dit, écoute, moi Jésus je le connais pas, mais si jamais je peux réussir mon couple avec Jésus, alors je veux accueillir Jésus dans ma vie. Et comme ça, combien de chemins de renaissance, de couple dont nous sommes témoins. Et c'est pour cela que Jésus le dit d'ailleurs dans la discussion de Matthieu 19, en rapportant la Genèse, Dieu vient unir. Il vient pas simplement bénir comme ça. Il vient unir l'homme et la femme. Chose qui est tellement difficile. Et il vient nous sauver. Ça veut dire des choses précises. Il vient nous pardonner. Il vient nous guérir. Il vient nous libérer. Le thème de ce chapitre, c'est aller dire à mes disciples qu'il est ressuscité. Mais pour aller dire, pour aller évangéliser, il faut d'abord avoir fait l'expérience personnelle, conjugale, familiale, que Jésus vraiment est ressuscité et sauveur. Benoît XVI le disait à l'ouverture du synode sur la nouvelle évangélisation. Est évangélisateur celui qui a été guéri par Dieu. Guéri par Dieu. Cela rejoint ce que le pape François dit. Je veux que l'Église soit un hôpital de campagne. Il y a tant de blessures dans nos couples, dans nos familles. Et nous savons combien quasiment personne ici dans cette assemblée n'est indemne de cela dans sa famille, dans son couple, dans sa relation avec ses parents, avec ses enfants. Ça nous touche intimement. Nous sommes profondément blessés. Le péché a foutu un boxon pas possible. Et Jésus vient nous restaurer. Il vient nous guérir. Et pour beaucoup d'entre nous, Jésus, pendant ce chapitre, veut vraiment toucher profondément nos cœurs. Veut nous guérir. Parce que c'était pas le dessein de Dieu. C'était pas le dessein de Dieu de nous voir aussi fracassés, de nous voir vivre des choses aussi douloureuses. Jésus vient nous sauver. Il veut nous sauver. Personnellement. Ici, maintenant. Vous savez, c'est la discussion de Jésus avec Nicodème, le vieux Nicodème, qui vient voir Jésus le soir, qui lui dit, comment naître de nouveau? Alors on va dire que Nicodème est accompagné de son épouse. Comment naître de nouveau dans notre couple, dans notre mariage, dans notre famille? Comment naître de nouveau? Il te faut naître et de l'eau et de l'esprit. et de l'eau, c'est toute la dimension baptismale, sacramentelle. La foi dans la résurrection, dans le salut de Christ. Et c'est aussi la vie dans l'esprit. Pourquoi tant de mariés chrétiens divorcent quasiment autant que les autres, que les païens? Mais ça lui est donné pourtant. Parce qu'il n'y a pas de vie dans l'esprit. Le sacrement est comme non vivifié. Le salut est donné, mais il doit être vivifié. C'est pour ça qu'il nous faut être saisis dans l'esprit. Brûlés par l'esprit. Si jamais il n'y a pas cette vie dans l'esprit, c'est comme si jamais, le jour de notre mariage, on avait reçu une magnifique limousine, extraordinaire, mais on n'a pas les clés. On ne bouge pas d'un centimètre. On a reçu un trésor d'un million d'euros, on n'a pas le code d'accès à la banque. C'est comme si jamais j'étais SDF. Combien nous sommes SDF dans nos couples et dans nos familles? Nous ne connaissons pas le trésor du Seigneur. C'est pour ça que Jean-Paul II disait, si les couples n'accueillent pas le Christ au cœur de leur vie conjugale, il y a un grave danger. C'est ce que disait le cardinal Etchegaray. Mais tant de personnes, même dans l'Église, croient que le sacrement du mariage, c'est un mariage civil saupoudré de quelques rites religieux. Mais si on croit cela, c'est ne rien comprendre au mariage, disait-il. Pape François, je suis d'accord avec mon prédécesseur à Buenos Aires. Je pense une grande partie de mariages sont nuls. Et le pape François, si les chrétiens se marient, c'est parce qu'ils ont conscience d'avoir besoin du Christ. Besoin. Ça veut dire que le Christ est agissant. Nous avons besoin du Christ, dit le pape François, vous avez besoin du Christ pour accomplir votre mission de parents et d'époux. Et d'époux. C'est pourquoi il est si important, frères et sœurs, d'accueillir au cœur de nos familles Jésus ressuscité, Sauveur, qui vient vraiment nous consoler, nous restaurer. On est des bras, excusez-nous, on est des bras cassés dans l'amour. Et on a besoin d'être restaurés, restructurés, guéris pour vivre cet évangile, cette restauration, pour goûter, comme le disait Maud tout à l'heure, ce que Dieu veut pour nous, l'intensité de la vie trinitaire dans la vie conjugale, dans la vie. C'est pas simplement pour être des bons couples cathos et des bons couples chrétiens. D'ailleurs, on s'en fiche, c'est pas la question. C'est pour goûter notre génétique conjugale. C'est-à-dire le bonheur, l'intensité d'amour, de communion que Dieu a inscrit en nous parce qu'on est à l'image de la Trinité. C'est notre génétique conjugale. C'est ça qu'on attend. C'est ça qu'exprime l'intensité de la relation au niveau de la sexualité. C'est pour ça que la théologie de la sexualité est si belle, mais bien sûr si fracassée par le péché. C'est pour ça que nous avons besoin d'accueillir cela, d'accueillir cette puissance dans nos vies.
Alors avant d'arriver plus sur le comment accueillir ce salut du Christ, il faut qu'on comprenne bien quelle est la vision de Dieu en Jésus. Vous connaissez bien la parabole de Cana, l'histoire de Cana, le récit des noces de Cana. On va le lire avec la perspective, je dirais, de la vie conjugale. Cet évangile retrace deux chemins. Le chemin de l'amour du monde selon le monde et le chemin de l'amour selon le Christ. Le jeune couple qui s'unit au début, l'amour coule à flot. C'est ainsi dans la vie amoureuse. Au début, on a le cœur qui explose à chaque fois qu'on voit le visage de l'autre. Et puis, les années passant, les mois passant, le vin vient à tarir. Autrement dit, le bel amour du début qui coule à flot naturellement, spontanément, devient soit du vin aigre, de la piquette, au pire, il ne reste plus que de l'eau. Et c'est ce qu'on entend souvent. Nous n'avons plus d'amour l'un pour l'autre. Je ne sens plus rien. Voilà l'amour selon la loi du monde. Et tous les psychologues vous le disent, un amour de ce type ne dure que 3 mois, 3 ans maximum, parfois un peu plus avec l'habitude, mais de toute façon, un jour ou l'autre, le vin vint à tarir. Et que fait Jésus? Il transforme l'eau des jarres. Les jarres, bien sûr, ça veut dire que c'est notre volonté qui est engagée. Il faut remplir les jarres d'eau. Il faut les remplir. Les pères de l'Église ont vu dans ces jarres la prière, le jeûne, tout ce qu'on vous apprend à faire dans l'Église. Mais on attend que Jésus fasse de cette eau un vin meilleur que celui des noces. Autrement dit, ça veut dire qu'à chaque fois que Jésus vient nous sauver, à chaque fois qu'il vient changer l'eau de notre amour, il le transforme en un vin meilleur que celui du début des noces. Alors que dans le monde, on sert le bon vin quand au début et puis quand tout le monde est sous, on donne de la piquette comme ça, personne ne s'en rend compte. Pour Jésus, c'est l'inverse. Plus on avance dans la vie, meilleur est le vin. Plus on s'aime et plus on lutte pour s'aimer et plus on laisse le Seigneur nous sauver, plus on aime. Si j'avais compris quand je me suis mariée à 20 ans que cet humble serviteur que le Seigneur m'a confié, eh bien, je pensais l'aimer au maximum et avoir le cœur qui explose toutes les 5 minutes, je n'avais encore rien vu de ce qu'est l'amour. Et 30 ans plus tard, je découvre encore à quel point l'amour peut s'approfondir. Mais si on vous dit ça, c'est parce que les premiers, nous avons expérimenté que le Christ nous a sauvés des dizaines de fois. Des dizaines de fois où il n'y avait plus que de l'eau, ou alors en tout cas un vin bien amer, bien douloureux. Eh bien, à genoux devant le Seigneur, on lui a supplié de faire advenir son salut au nom de notre sacrement de mariage. Et le Seigneur l'accomplit. Dans la foi, le Seigneur l'accomplit. Et c'est ça la grâce du salut qui est donnée à nos couples. Et c'est pour ça qu'on voudrait avancer justement sur cette grâce qu'il nous faut aller accueillir, chercher. À des moments, Jésus dit, il y a les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Soyons les violents pour aller chercher les grâces du sacrement de mariage. Allons les tirer de la manche de Jésus, de son cœur. Seigneur, donne-nous ces grâces. Tu nous les as promises maintenant. Accomplis ton miracle. Change l'eau en vin. Donne ta grâce. Et Jésus nous a bien dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Donc nous, couples, soyons bien conscients que si nous n'acceptons pas de dire à Jésus, nous sommes malades, Jésus, regarde, Seigneur, notre petitesse, notre faiblesse. Regarde notre incapacité à nous entendre, à communiquer, à nous aimer, à être patient l'un pour l'autre. Vois notre faiblesse, Seigneur, interviens. Jésus n'est pas venu pour les couples parfaits. Il est venu pour les couples qui n'arrivent pas à s'aimer, mais qui lui mendient cette grâce tous les jours. C'est bien ça le sacrement d'amour. Seigneur, je me suis engagée à recevoir mon époux et à me donner à lui. Est-ce que je suis capable de me donner? Sans toi, Seigneur, j'ai toujours quelque part quelque chose qui me retient. Donc sommes-nous vraiment vraiment disposés pendant ces quelques jours de chapitre des familles qui sont un lieu, je dirais, cadeau pour nos couples, à demander au Seigneur cette grâce pour nos couples? Je vais prendre un petit évangile rapide que vous connaissez bien. C'est dans Matthieu. C'est l'histoire de deux aveugles qui crient vers Jésus. C'est amusant parce que deux aveugles, on va dire que c'est un couple. Ok, nous sommes un couple d'aveugles. Et nous demandons au Seigneur la lumière. Matthieu, il y tient tellement qu'il a pris 2 fois ce récit. Un petit avec quelques nuances, mais il le raconte 2 fois. Donc il faut vraiment qu'on l'entende. Et je propose que nous puissions suivre la pédagogie de ces aveugles pendant ces quelques jours. D'abord, crier vers Dieu. Aie pitié de nous, Seigneur. Est-ce que nous crions vers Jésus quand quelque chose ne va pas? Crier, c'est pas juste dire « Bon Seigneur, si tu peux faire quelque chose pour arranger mes affaires, ce serait bien. » Non, non. C'est un cri de douleur. « Oui Seigneur, nous souffrons. Oui Seigneur, nous avons besoin de toi. » Crier vers Dieu ensemble. Ensuite, truc absolument incroyable, je sais pas si vous avez remarqué, imaginez la scène. Les deux aveugles arrivent devant Jésus et Jésus leur pose une question. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Ah ben c'est sûr, Seigneur, on est aveugle, mais peut-être que tu pourrais guérir notre petit doigt. Ou peut-être que tu pourrais arranger mon mal de dos. Et non, non. C'est évident qu'ils sont aveugles, mais Jésus veut qu'ils le disent. Seigneur, que je vois. Il faut nommer sa blessure. Et vous le savez, dans le sacrement de réconciliation, l'Église a cette sagesse de nous demander de nommer. Eh bien, en couple, nommons nos souffrances. Nommons nos blessures, pas pour nous discuter pendant 3 heures pour savoir qui est responsable de quoi, ça n'a pas d'intérêt. Ce qui compte, c'est de dire « Jésus, je souffre là. Mon mari souffre là. Ensemble, nous souffrons là. » Ensuite, la question que Jésus pose, « Croyez-vous que je puisse faire cela pour vous ? » Croyons-nous que Jésus peut accomplir le miracle de Cana pour nous ? Nous ne méritons rien, tout est grâce. Mais avons-nous assez de foi pour croire que Jésus peut aller jusque-là, ressusciter notre amour? Jusque-là, faire vivre ce qui est mort dans notre couple? Croyons-nous, c'est l'épreuve de la foi. Et puis il y a cette phrase magnifique, pris de pitié, saisi de compassion selon les traductions, Jésus leur toucha les yeux. Et Jésus vient visiter chacun d'entre nous à un moment qu'il a choisi pour accomplir et donner sa grâce. Et ensuite, il y a cette phrase de Jésus, « Qu'il advienne selon votre foi ». C'est donc bien notre foi qui est en jeu pour que le salut se réalise. Et dans un lieu comme ici, on sait qu'on est porté aussi par la prière et la foi de nos frères et sœurs, et qui va faire que nous pouvons tous rentrer au banquet des noces, nous, estropiés malades qui traînions sur les chemins. Le Seigneur nous invite à vivre cette grâce de Cana pour nos couples. Le meilleur est toujours pour devant.
Alors, pour compléter l'approche qu'a souligné Maud au niveau de la démarche des deux aveugles, on peut prendre également un autre moment, un peu plus loin, dans les Actes. Très peu de temps après la Pentecôte, c'est quand Pierre et Jean se retrouvent à la belle porte du temple. Et là, il y a un homme paralysé qui mendie. Et nous sommes tous les couples, les uns et les autres, on est tous à mendier quelque part. C'est pour ça que toutes les, effectivement, Maud l'a évoqué un peu tout à l'heure, toutes les questions de psychologie, de couple, de etc., liées à la personne, liées au couple, je veux dire, ça, c'est tous les canards, les journaux, etc., les émissions là-dessus, c'est, voilà. Énormément de personnes, effectivement, sont attachées à toute cette réflexion sur comment guérir. Et Pierre et Jean, il faut entendre que nous entendions, l'Église entend que tant de couples, tant de familles cherchent vraiment à comprendre la source de leur mal et à être consolés dans leur mal. Et au travers de Pierre et Jean, de la réponse de Pierre et Jean à cet estropié, ce paralysé, c'est ce que dit l'Église à chacun de nos couples et de nos familles. De l'or et de l'argent, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et les Actes relèvent, celui-ci bondissait et louait Dieu. et tout le monde était dans la stupéfaction. Voilà ce que le Christ veut faire dans nos couples, dans nos familles. Le Seigneur veut nous faire bondir de joie. Et le témoignage que nous donnons ou donnerons de bondir de joie parce que Jésus sera venu nous guérir témoignera au monde de la stupéfaction des œuvres de Dieu dans nos vies. Ce sont les plus beaux miracles dont nous sommes témoins depuis 30 ans. De voir vraiment cette guérison à l'œuvre dans les couples, dans les familles. De voir vraiment ce réveil de la vie trinitaire, cette intensité atomique de l'amour renaître dans des couples morts ou alors si tièdes. Jésus veut cela pour nous. Donc, le Seigneur désire que nous soyons comme conjoints les ministres de l'Esprit-Saint, l'un pour l'autre. Jean-Paul II a des paroles extraordinaires dans la lettre aux familles qu'il a écrite en 94. Extraordinaire. C'est un bijou charismatique. Et il souligne notamment que époux, épouse, vous êtes ministres de l'Esprit-Saint l'un pour l'autre. Et ministres de l'Esprit-Saint pour vos enfants. Et donc, que le Seigneur vraiment vienne faire advenir dans nos vies personnelles et conjugales, vraiment cette œuvre de salut. Cette œuvre de salut. C'est pour cela, ce n'est pas tellement sujet, mais nous l'évoquons, que nos pastorales conjugales, familiales, dans nos diocèses, dans nos mouvements, dans nos paroisses, doivent être profondément rénovées autour de l'expérience du salut du Christ. Et à ce titre-là, ça peut être souligné. Vous savez que nous vivons un entre-deux synodes sur la famille. Et le premier synode, on a surtout parlé des polémiques sur la pastorale sacramentelle, etc. Voilà, par rapport aux divorcés mariés, etc. C'est bien sûr important. Mais surtout, ce qui a été l'élément structurant, très important, sur les 70 paragraphes du rapport final, au moins les deux tiers sont sur l'aspect missionnaire que doit recouvrir la pastorale familiale, avec des mots très forts. On doit remettre à plat l'ensemble de la pastorale conjugale et familiale. On doit réviser en profondeur l'annonce de la foi. Parce que il faut qu'on aille au cœur du problème. C'est pour ça que nos pastorales conjugales et familiales doivent être prédicatives sur l'annonce et l'expérience de Jésus. Ça, c'est pas d'abord théorique, mais que vraiment les gens puissent goûter que Jésus guérit, que Jésus libère. Quand Jésus dit « La bonne nouvelle est annoncée » et les aveugles voient, les boiteux marchent et les morts ressuscitent, ça concerne nos couples et nos familles. C'est pour ça que nous disons que l'évangile de la famille et du couple, c'est une autoroute missionnaire. Tellement les gens ont besoin de guérir au niveau de leur conjugalité, de la famille. Combien ils en ont besoin. Un grand ami de Jean-Paul II, Cardinal Scola, aujourd'hui archevêque du Milan, disait « Quand l'Église aura compris la puissance prédicative de la théologie de Jean-Paul II sur le couple et la famille, ça sera une bombe missionnaire. » Si c'est bien une bombe missionnaire, ça veut dire que ça sera extrêmement puissant en termes missionnaires. Alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce que saisit le monde, qu'est-ce qui est un peu dans notre inconscient collectif ecclésial, c'est que entre le couple, la sexualité, etc., et la société sur la question familiale, conjugale et la foi, c'est complètement opposé, c'est complètement ringard. alors que c'est le contraire. Il n'y a pas plus associé à l'intimité de la vie conjugale, sexuelle, familiale, que l'évangile du Christ. Parce que c'est l'évangile du Christ qui nous conduit à réaliser nos aspirations les plus intimes, profondes, intenses sur ces questions-là. Donc, durant ces trois jours, Seigneur, tu as 3 jours pour chacun de nous, pour faire ton œuvre de salut dans notre couple, dans notre vie personnelle, dans notre famille. Vous savez, c'est Jésus qui dit à Zachée, Zachée complètement surpris, je viens habiter chez toi. Jésus veut venir habiter l'intimité, la plus intime si on peut dire, demeurer dans notre cœur conjugal, familial. Jésus désire que nous vivions pendant ces 3 jours comme le chemin d'Emmaüs. Vous savez, il est dit dans les... Alors on aime bien dire ça, quand l'évangile ne précise pas les choses, comme Maud l'a dit tout à l'heure pour les deux aveugles. Bon, c'était un couple. Ben, c'est pareil, pour Emmaüs, c'est un couple de missionnaires, de disciples, voilà, qui quitte, et il est dit dans l'évangile, il quitte Jérusalem le cœur triste. Et puis il y a la rencontre de Jésus, etc., etc. Puis Jésus disparaît à leurs yeux, à la fraction du pain, et ils reviennent à Jérusalem, le cœur tout brûlant. Tout brûlant. Voilà ce que le Seigneur veut pour nous. Nous faire goûter d'un cœur triste. Parce que combien sommes-nous à être tristes, déçus, amers par rapport à notre vie conjugale ou familiale. Et le Seigneur veut nous redonner, nous faire goûter concrètement une espérance. Pour que simplement, pas simplement qu'on se dise, bah tiens, je suis bien avec mon époux, mon épouse, ou avec mes enfants, etc. Mais qu'on ait vraiment le cœur brûlant, brûlant. C'est ce que Dieu veut. C'est l'intensité encore de la vie trinitaire. Jésus veut nous faire aussi participer à l'expérience de la Samaritaine. Samaritaine, qui rencontre Jésus, elle rejoint bien le monde moderne. La Samaritaine, elle s'est fait 5 mecs déjà. Et elle est avec le 6e. Donc de l'amour, du sexe, la vie conjugale, elle en a consommé. Hein. Et pourtant son cœur est toujours assoiffé. Fais-moi goûter de cette eau que je n'ai plus soif. On peut avoir le mari ou la femme la plus géniale qui soit. Eh bien, malgré tous ses atouts, ne peut pas combler la totalité de notre cœur. C'est Jésus qui peut combler la totalité de notre cœur. Et vraiment étancher la soif de nos cœurs. Donc c'est ce que Jésus veut nous conduire à cette source qu'il est. Pour unifier nos vies conjugales et familiales. C'est pour cela, on l'évoquera demain dans l'atelier, mais c'est pour ça que nous avons, l'Église a tellement besoin de couples missionnaires qui annoncent, témoignent de cet évangile du salut dans le couple et la famille. Et d'ailleurs, le synode, c'est impressionnant. Dieu sait si nous, depuis 30 ans, nous lisons beaucoup et quasiment tous les textes de l'Église et du magistère qui sortent sur la question. Jamais nous n'avons lu dans la récente histoire de l'Église une parole de l'Église aussi nette, claire, exhortative de faire monter les couples en première ligne missionnaire. Le rapport du synode de 2014 est impressionnant. Il y a une mobilisation générale de l'Église vis-à-vis des couples en disant, vous êtes les premiers témoins. Vous devez apporter le témoignage au monde que Jésus, effectivement, est agissant, guérissant dans la famille. Donc, nous voulons terminer ce temps avec vous, nous nous invitons vraiment à prendre quelques instants de prière, peut-être à fermer les yeux, afin vraiment que nous puissions vraiment accueillir ce que l'Esprit Saint veut nous dire à chacun. Et l'appel vraiment que le Seigneur nous fait à chacun d'accueillir durant ces 3 jours. 3 jours, rappelez-vous, c'est toute l'expérience du Triduum Pascal. C'est l'expérience vraiment de la mort et de la résurrection du Christ. Le Seigneur peut venir restaurer tellement de choses dans nos vies. Alors Seigneur, vraiment, nous voulons vraiment te bénir et te confier chacun de nous. Seigneur Jésus, te demandons vraiment de la puissance de ton Saint-Esprit, de venir rejoindre chacun de nous. Seigneur, te demandons vraiment, au nom de Jésus, à ton sang précieux, de venir vraiment faire ton œuvre de salut, de guérison, durant ces 3 jours, dans la plus intimité de nos cœurs, de nos familles. Nous te confions, Seigneur, ceux qui sont les plus blessés, les plus éprouvés. Seigneur Jésus.
Seigneur, viens consoler.
Seigneur Jésus.
Viens redresser, viens relever. Donne à chacun un nouvel amour, un nouveau regard sur son conjoint.
Seigneur Jésus.
Donne-nous, Seigneur, de vivre dans ces 3 jours des miracles. Des miracles pour nos familles et des miracles pour nos couples. Afin que nous soyons témoins jusqu'aux périphéries, Seigneur, jusqu'au plus loin de tes œuvres. Que nous puissions montrer au monde les preuves de ton amour. Et bondir de joie, comme tu nous l'as promis, Seigneur.
Seigneur, nous pleurons sur notre péché, nous pleurons sur nos blessures, mais nous croyons vraiment, Seigneur Jésus, que tu viens faire ton œuvre dans nos vies. Seigneur, nous voulons vivre vraiment cette expérience de ton salut, pas simplement notre nom, mais aussi au nom de tous ceux que nous portons dans notre cœur. Seigneur Jésus, nous voulons vraiment associer nos parents, nos enfants, nos petits-enfants, nos frères, nos sœurs, tous ceux qui sont tellement éprouvés. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Esprit Saint. Guéris-nous. Sauve-nous. Pardonne-nous. Restaure-nous.
Seigneur Jésus, on veut ton onction de tendresse. Donne de la tendresse à nos gestes, à nos regards. Adoucis nos cœurs. Seigneur Jésus.